tout de suite le journal avec vous, Antoine Denecher. Bonjour.
Bonjour. Bernie Sanders et Michelle Obama. Voilà les deux discours qui ont marqué la première journée de la Convention démocrate à Philadelphie aux États-Unis. Le sénateur du Vermont s'est dit fier d'être aux côtés d'Hillary Clinton, son ancienne adversaire, qui fera, je cite, une présidente exceptionnelle. Et puis l'épouse de l'actuel président Barack Obama l'a, elle, martelé. Dans cette élection, je suis avec elle, Frédéric Carbone.
In this election, I'm with her.
C'est la phrase la plus rituelle de la soirée, mais elle n'est jamais autant applaudie que dans la bouche de Michelle Obama. Voilà une des femmes les plus populaires du pays qui vient soutenir une candidate en manque parfois d'affection. Voilà une première dame qui défend un pays où l'espoir est toujours possible. Voilà aussi une mère qui pense à l'avenir de ses enfants.
L'enjeu de cette élection, c'est de savoir qui aura le pouvoir d'influencer la vie de nos enfants dans les 4 ou 8 ans qui viennent.
Michelle Obama insiste donc sur le contraste entre l'humanité et la compétence d'Hillary Clinton et le cynisme et l'amateurisme de Donald Trump. « Je mesure le poids de l'histoire », dit-elle, « parce que je me réveille tous les matins dans une maison construite par des esclaves, cette maison blanche qu'elle rêve de voir dirigée par une femme. »
Grâce à Hillary Clinton, mes filles et tous leurs enfants tiendront pour acquis qu'une femme peut être présidente des États-Unis.
Avant Michelle Obama, l'actrice Eva Longoria avait formulé le même vœu. Une femme noire, une actrice hispanique. La coalition Obama se met en place autour d'Hillary Clinton et l'Amérique qui s'expose à Philadelphie n'a rien à voir avec celle des Républicains à Cleveland.
Reportage Frédéric Carbone. On le présente parfois comme le Donald Trump de l'Asie du Sud-Est, sauf que lui est président. Le chef d'État philippin Rodrigo Duterte a annoncé hier un cessez-le-feu avec la rébellion communiste aux Philippines, active depuis des années dans l'archipel et pourvue d'une branche armée. Cette rébellion aurait fait près de 30 000 morts depuis 1969. Mais le président philippin semble vouloir engager un processus de réconciliation nationale. Sophie Boisseau-Durocher, chercheuse à l'IFRI, spécialiste des questions politiques en Asie du Sud-Est.
La société philippine est divisée. Elle est divisée par de multiples clivages. Il est clair que la recrudescence récente du mouvement communiste est due à l'augmentation des inégalités sociales et donc en entreprenant des réformes économiques et en même temps en amorçant un vrai mouvement de réconciliation, il espère apporter au pays un dynamisme nouveau et repartir sur des bases plus stables. Par ailleurs, le mouvement communiste philippin est un mouvement d'obédience maoïste, chinoise. Et donc, si vous voulez, il y a là également une main tendue à l'égard de Pékin, ce qui est un point important, alors que la relation avec la Chine est en train d'être reparamétrée. Donc, si vous voulez, il y a l'ensemble de ces facteurs qui rentrent en ligne de compte pour véritablement marquer dès le début de son mandat sa détermination à finir les hostilités et surtout à repartir sur de bonnes bases.
Des propos recueillis par Hélène Masquelier. Le Japon a été touché par une attaque au couteau sans précédent dans son histoire. Cette nuit, un homme s'est introduit dans un centre de suivi des personnes handicapées au sud de Tokyo. Il a tué 19 handicapés mentaux et en a blessé 25. Âgé de 26 ans, selon ses premières déclarations à la police, il a dit qu'il voulait se débarrasser des handicapés dans le monde. À Nice, deux hommes ont été placés en garde à vue hier dans l'enquête sur l'attentat du 14 juillet. Les policiers recherchent toujours d'éventuels soutiens logistiques qui auraient aidé Mohamed Laouesh Boulel. Alors quel impact justement peuvent avoir les attentats terroristes sur la fréquentation touristique en France? Cette question inquiète et mobilise les services de l'État. Emmanuel Macron était à Nice hier pour annoncer des mesures d'aide aux entreprises du secteur, notamment les cafés, hôtels et restaurants. Et aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, se rend dans la région centre pour faire la promotion des châteaux de la Loire. Il faut dire, Stéphane Robert, que la crainte de nouveaux attentats a déjà eu des répercussions sur le tourisme à Paris.
La France est la première destination mondiale pour les vacances, devant les États-Unis et l'Espagne, avec la venue chaque année de 65 millions de touristes étrangers. Et l'activité touristique représente plus de 7% du PIB, le produit intérieur brut, c'est considérable. Ça fait plusieurs mois déjà que les différents ministères concernés s'inquiètent de l'impact que peuvent générer les attaques terroristes. Au lendemain du 13 novembre 2015, les effets avaient été très rapides et d'une grande ampleur sur le tourisme parisien, de 30 à 40% d'annulations dans les hôtels de la capitale. Ce sont notamment les Américains et les Japonais qui ont déserté la France et ils ne sont toujours pas revenus, relève l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. Le problème, c'est qu'il y a non seulement la crainte de nouvelles attaques, mais aussi les sociétés d'assurance qui ont augmenté les primes à verser compte tenu de la mise en place de l'état d'urgence. Alors, suite à l'attaque survenue le 14 juillet à Nice, il est encore trop tôt pour mesurer d'éventuels impacts sur la Côte d'Azur, mais il est à craindre des répercussions à court et moyen terme sur le tourisme partout en France, en dehors de Paris. Car avant Nice, les attaques étaient ciblées par les terroristes, c'était les journalistes avec Charlie Hebdo, ou encore la jeunesse parisienne relativement aisée avec les attentats du 13 novembre. Cette fois, l'attentat du 14 juillet a montré que tout le monde, potentiellement, pouvait être une cible et que n'importe quel endroit du territoire pouvait être touché.
Explication de Stéphane Robert pour France Culture. Au chapitre politique, sachez que 61 députés de gauche ont saisi hier le Conseil constitutionnel à propos de la loi travail pour non-respect du débat parlementaire. Il s'agit des députés communistes, de certains écologistes et de socialistes, notamment frondeurs. Bientôt l'épilogue dans le dossier Hinkley Point, ce projet de construction de deux réacteurs nucléaires au Royaume-Uni, portés par EDF avec un groupe chinois. Ce projet coûte 22 milliards d'euros et avec les incertitudes actuelles qui pèsent sur les finances d'EDF, les syndicats de l'entreprise sont inquiets quand le gouvernement, lui, est à fond pour le projet. Projet qui doit être entériné jeudi en conseil d'administration d'EDF, Jean-Marc Chardon.
Il n'y aurait plus de temps à perdre. Au-delà des positions des pros et des anti, le risque serait de compromettre des contrats qui, eux, sont déjà signés. C'est l'argument final utilisé par de nombreux experts. Le projet est assorti de clauses qui lui assurent une excellente rentabilité à 9%. C'est qu'il est bâti sur un prix garanti par les autorités britanniques. Il jouerait comme une subvention d'une trentaine de milliards d'euros. Un argument jugé recevable par Lionel Tacohen, directeur de la lettre géopolitique de l'électricité, pour qui c'est le projet de la dernière chance.
Le gouvernement britannique a fait des propositions financières pour ce réacteur qui sont extrêmement intéressantes, ce qui fait que si la France, enfin je veux dire EDF, Areva, ne donne pas suite, il est vraisemblable que pour l'opinion mondiale qui s'intéresse au nucléaire, nous ne serions plus pris au sérieux. Moi je pense que c'est une opération rentable compte tenu du prix que les Britanniques ont consenti, mais néanmoins il faut si vous voulez naturellement qu'EDF avance une partie de cet argent et EDF est actuellement dans une situation financière très difficile.
EDF qui va être recapitalisé à hauteur de 4 milliards d'euros pour l'essentiel grâce à l'État afin de retrouver un peu d'aisance financière.
Merci Jean-Marc Chardon. Le périple avait commencé en mars 2015. Après 23 jours en fait de vol effectif, Solar Impulse 2 vient de boucler ses 42 000 km autour du monde et a atterri à Abu Dhabi cette nuit. L'avion vole sans aucune goutte de carburant et uniquement à l'énergie solaire. Le temps aujourd'hui sera estival et ensoleillé. Quelques gouttes possibles toutefois de la Bourgogne au Rhône-Alpes, voire des orages en fin de journée dans le sud des Alpes. Il fera toujours bon cet après-midi, 19 à 31 degrés du nord-ouest au sud jusqu'à 34 près de la Méditerranée. Un grand merci à Martin Descloseaux et François-Charles Domergue pour leur aide précieuse et Alex Dang à la prise de son.